au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Nous sommes mardi, c'est le 3 février, ici Claude Fournel. J'espère que vous avez passé une belle journée à l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante. On va parler de la rentrée parlementaire à Québec et du grand retour tant attendu de Marois Risky. Nicolas Frameries sera avec nous, directeur du développement économique de la MRC de Joliette. Il sera question des travailleurs étrangers temporaires. Geneviève Quentin, PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, sera là pour nous parler de météo touristique. On aura également avec nous Philippe Archambault, vice-président d'Alto. Il sera question du projet de train à haute vitesse là, qui passerait par Lanaudière. Mais tout d'abord, le Parti québécois qui s'engage à procéder à un allègement fiscal pour les PME s'il forme le prochain gouvernement. Formation de Paul Saint-Pierre Plamondon qui entend délaisser les subventions ciblées aux grandes entreprises pour prioriser les PME. Le plan sera détaillé au cours des prochaines semaines, mais François Morin a pu échanger là-dessus avec la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore.
Oui, bien écoutez, pendant le mandat caquiste, on l'a vu, hein, c'est la dilapidation des fonds publics dans des grands projets bâclés, mais aussi surtout dans des entreprises étrangères, des grandes multinationales étrangères. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que l'ensemble des entreprises québécoises, l'ensemble de nos PME payent des taxes et impôts, puis il y a seulement 8% des entreprises qui reçoivent une subvention pour les aider dans leurs activités. Donc, nous, ce qu'on veut faire, en fait, on voit l'échec de ça, là, c'est-à-dire que la croissance économique, elle est vraiment catastrophique, anémique au Québec depuis le début du mandat caquiste. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que toutes nos PME puissent profiter d'un allègement fiscal et on propose un allègement fiscal historique par ailleurs pour nos PME au Québec. On veut créer une saine concurrence, une saine compétitivité entre nos entreprises puis s'assurer qu'elles aient le meilleur contexte possible pour évoluer et tirer leur épingle du jeu. Donc, c'est ça qu'on propose au Parti québécois.
Parce que faut-il le rappeler, et ça a fait beaucoup l'actualité, là, les décisions gouvernementales ont engendré des pertes importantes dans l'économie québécoise.
Absolument, là, qu'on pense à différents projets, différents Nordvolt, pour ne nommer que celle-là, là, où on a perdu 750 millions de dollars. Ce sont des sommes qui sont astronomiques. Quand on pense au Fonds de développement économique, on est rendu à quasiment 6 milliards de dollars dans ce fonds-là. Ça n'a aucun bon sens. Donc, nous, on veut rapatrier cet argent-là, carrément couper dans le bar ouvert aux subventions, couper complètement le Fonds de développement économique, prendre cet argent-là et le réinvestir en allègement fiscal pour toutes nos PME. Donc, elles vont toutes pouvoir en profiter, elles seront toutes sur un même pied d'égalité et elles vont toutes pouvoir ensuite de ça se développer et fleurir comme elle se devrait. On veut recentrer l'économie du Québec autour de nos PME.
Je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Les grandes entreprises, souvent étrangères, risquent de soit menacer de ne pas investir au Québec ou de quitter.
Ben écoutez, on le voit, là, nos PME ont de la difficulté à survivre. En ce moment, on a fait une vaste tournée avec mon collègue Pascal Paradis. On a fait le tour de toutes les régions du Québec pour aller entendre ce qui se passait dans nos PME. Et on croit que c'est le cœur battant de l'économie québécoise et c'est vraiment vers eux qu'on devrait rediriger nos énergies. C'est eux qui devraient profiter en premier du meilleur qu'on a à offrir et c'est eux qui devraient profiter de l'argent du gouvernement pour pouvoir justement se développer comme il se doit. Je pense que les grandes entreprises étrangères ont des leviers à leur disposition pour bien se développer et pour avoir une économie qui soit riche. Donc, nous, c'est la décision qu'on prend de vraiment se rediriger vers nos PME.
Et pour les gens qui sont pas très familiers nécessairement avec l'économie, ces grandes entreprises-là dépendent en bonne partie, je crois, en tout cas, des PME québécoises.
Mais exactement, parce que c'est sûr que ces PME-là leur rendent des services ou produisent certaines choses dont elles ont besoin. Donc, c'est un écosystème. Ces entreprises-là sont codépendantes. Donc c'est un écosystème dont il faut prendre soin. Puis pour que nos grandes entreprises soient bien ici, ben il faut que nos PME soient à leur meilleur puis qu'elles puissent donner leur plein rendement. Puis c'est vers ça qu'on va miser.
Si je reviens en terminant, à une certaine époque, des gouvernements du Parti québécois, on avait axé beaucoup de mémoire sur les régions, sur les fonds de développement économique régionaux, sur les CLD. Est-ce qu'on va revoir justement ces formules-là pour tenter d'y bonifier?
Mais c'est assurément que sous la CAQ, on a vu une centralisation de l'ensemble des pouvoirs. On a vu aussi retirer beaucoup d'autonomie à nos régions. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner cette autonomie-là à nos régions. On veut s'assurer que nos PME dans les régions puissent avoir le maximum. Donc, c'est sûr et certain que ce sera revu en conséquence de notre côté.
Ben, c'était la députée de Terrebonne, la péquiste Catherine Gentilcor, avec qui François Morin a parlé un peu plus tôt. Le Parti québécois qui s'engage donc à procéder à un allègement fiscal pour les PME s'il prend le pouvoir. Il est 16h11 dans un tout petit moment. C'est bien intéressant. On va parler avec Philippe Archambault, vice-président d'Alto. Et il va être question du fameux projet de train à grande vitesse là qui partirait de Québec pour se rendre jusqu'à Toronto et qui va passer par la région de la Naudière.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué gagné au Super Radio Bingo le dimanche 1er février. Gagne 80$ au jeu de la ligne DB, Alice Aumont de Saint-Jacques, carte achetée au dépanneur Miguet, Ginette Durand de Saint-Zénon, carte procurée au dépanneur Kildare de Saint-Ambroise-de-Kildare, Mario Savoie de Notre-Dame-des-Prairies, grâce à sa carte procurée au dépanneur Michel Caram de Joliette, Marjolaine Rondeau de Saint-Zénon, carte achetée au dépanneur Rondeau et Christine Alexander de Saint-Césaire, une carte procurée à Mandeville au marché Madame S. Elle remporte 4000$ au jeu de la carte pleine. Denise Laurence de Notre-Dame-des-Prairies, grâce à sa carte achetée au marché Philippe. Et gagne 600$ au jeu de la carte pleine de la deuxième chance, Nicole Perrault de Joliette. Une carte achetée au dépanneur Jean-Louis. Remporte 2500$ au bingo spécial du mercredi 28 janvier. Nancy Évangéliste de Sorel-Tracy, grâce à une carte achetée chez Liquidation Guertin. Et Gaétan Goulet de Repentigny, une carte procurée à Charlemagne. Au dépanneur 7 jours. Tous les dimanches matin, 10h05, 5000$ à gagner avec les trois jeux. Et mercredi, jusqu'au 11 février, bingo spécial, carte pleine à 5000$. Les cartes sont en vente au coût de 8$ pour une feuille de 4. La liste complète de nos dépositaires est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ dans la section Super Radio Bingo.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Le Festival Saint-Combe-en-Glace se poursuit et ça promet pour un week-end spectaculaire. Vendredi 6 février de 18h, viens danser durant la Disco des Neiges à la patinoire du Centre de loisirs Marcel Thériault. Samedi 7 février, rendez-vous au Parc de l'Harmonie. Spectacle de Jeanne Héry à 12h30, atelier d'initiation à la sculpture sur glace de 13h à 16h, puis Martin Levac en spectacle dès 14h30. À 16h, ne manque pas la grande soirée Feu et glace, concours de sculpture, DJ canot volant et feu d'artifice. Et dimanche 8 février, déjeuner, activité familiale et spectacle de Daniel Alejandro à 13h. Saint-Combe, c'est là que ça se passe. CFNJ sera sur place.
Jusqu'au 14 février, laissez-vous envoûter par la promo Coup de foudre du Centre culturel Desjardins. Deux billets pour $60 sur une sélection diversifiée de spectacles. Réservez dès maintenant vos billets pour Stéphane Archambault, Elle, la pièce de théâtre Merci d'être venu, Marc Dupré, Pierre-Luc Pomerleau, Ballet Ouest de Montréal avec Ella, l'histoire de Cendrillon ou encore Le poète et son luth. Une sortie à deux, c'est magique. Dites oui à l'émotion sur spectaclejoliette.com.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus Joliette.com.
Du lundi au vendredi, entre 11h et 14h, la Fromagerie Victoria vous propose un délicieux menu midi. Soupe, repas et breuvages à partir de $14. Rapide et abordable, la solution pour vos dîners pressés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury, à Berthierville.
CFNG. Lanaudière PM. Transport.
Le projet de train à grande vitesse, le TGV, fait l'objet de consultations actuellement dans la région de la Naudière. Il y a des experts qui sont venus expliquer les grandes lignes du projet dans le cadre d'une journée portes ouvertes. Le projet est encore loin d'être définitif, selon le vice-président des communications d'Alto, Philippe Archambault. Et Régent Turgeon a eu l'occasion de le rencontrer.
Monsieur Archambault, on est à Terrebonne, à l'hôtel Imperia, en ce mardi 3 février. Peut-être d'entrée de jeu nous rappeler, le projet Alto, c'est quoi?
Alto, c'est le projet de train à grande vitesse qui va relier Québec et Toronto. Donc, Québec jusqu'à Toronto, c'est le corridor le plus densément peuplé au Canada. On parle de 44% de la population qui vit dans ce corridor-là. Donc, un projet de train à grande vitesse qui va aller jusqu'à 320 km/h, qui va permettre de créer une grande région économique, sociale, culturelle. Donc, rapprocher les villes, rapprocher les gens. Par exemple, la distance Montréal-Toronto va pouvoir se faire en 3 heures, comparativement à 5h30, 6h en ce moment que ça prend avec les autres moyens terrestres.
Et là, ça implique des partenariats.
Oui, Cadence, c'est la société d'État qui est fédérale. Nous, on a un mandat du gouvernement du Canada de faire le projet de relier donc Québec-Toronto, 7 arrêts au total. Donc, il y a Peterborough également, Ottawa du côté ontarien, Laval, Montréal, Trois-Rivières et Québec du côté du Québec. Et on travaille en collaboration avec Cadence. Cadence est un regroupement d'entreprises canadiennes et françaises, dont la Caisse au Québec et SNCF Voyageurs, par exemple, en France, qui ensemble vont nous aider à développer, à construire puis à opérer le réseau.
Là, on doit comprendre que le public, j'imagine, puis certains organismes régionaux du milieu économique sont invités à prendre connaissance des particularités de ce projet-là.
Absolument. C'est une étape très importante dans le processus et on a décidé de consulter très tôt dans le processus. Donc là, en ce moment, ce qu'on a mis sur la table, c'est un corridor d'environ 10 km de large sur tout le long du tracé. Donc ça, c'est une zone d'étude. C'est pas la quantité de terrain, c'est pas l'emprise dont on va avoir besoin. C'est vraiment une zone d'étude qui est très large parce qu'il y a encore différentes options sur la table qu'on est en train d'étudier. Donc avant d'avancer davantage le projet et d'arriver plus tard avec un tracé ou un corridor très fin pour consultation, on a voulu le faire en 2 temps. Donc, une première consultation de janvier à mars. Puis, il y a différentes activités. Donc, des portes ouvertes, comme aujourd'hui, où les gens sont invités à venir rencontrer les experts, échanger aussi longtemps qu'ils le souhaitent avec nos différents experts, émettre leurs commentaires. Il y a une carte interactive qui est disponible pendant les portes ouvertes, mais également sur notre plateforme de consultation en ligne. Les gens peuvent ajouter des commentaires, des notes, des questions, des suggestions sur le tracé qui est à l'étude, le corridor, pardon, qui est à l'étude. On a également des tables rondes qui sont organisées. Donc, c'est une 60aine d'activités différentes de janvier à mars. Et plus tard cette année, on va revenir à ce moment-là avec un corridor beaucoup plus étroit pour consulter à nouveau avec une emprise qui, à terme, c'est une emprise d'environ 60 mètres de large qu'on a besoin pour un train à grande vitesse.
L'enjeu principal derrière ce projet-là, cette trajectoire-là, c'est, aux yeux de l'UPA, Lanaudière, la protection des terres agricoles. Ça vous interpelle?
Absolument. On est très sensible à ce défi-là. Et notre objectif principal en 2026, c'est de faire donc nos consultations et d'avancer aussi toutes les analyses, les études sur le terrain pour délimiter, pour trouver le tracé qui va avoir le moindre d'impact. Pour ça, on va essayer autant que possible de suivre des infrastructures déjà existantes, par exemple des voies ferrées ou des autoroutes. On va également essayer de suivre autant que possible les délimitations existantes des lots. Donc, il y a différentes manières pour réduire les impacts. On est en discussion avec l'UPA depuis plusieurs mois au niveau provincial pour justement voir avec eux comment on va pouvoir fonctionner. Ça va se poursuivre cette année pour trouver les meilleurs moyens de mitigation. Par exemple, puis on ne pourra pas le faire sur chacun des lots, mais une des choses qu'on peut envisager, puis c'est des passages pour que l'équipement des producteurs, des fermiers puisse passer d'un côté à l'autre lorsque la voie vient segmenter un lot. Mais avant toute chose, on va éviter de segmenter les lots. Ça, c'est certain.
Quand on parle de protection du territoire agricole au Québec, ben, il y a un organisme qui s'appelle la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ. Ils devront être impliqués dans le dossier, eux?
C'est un processus fédéral. Donc, vu que c'est un train qui relie l'Ontario et le Québec, on est vraiment soumis à l'Agence d'analyse d'impact environnemental du Canada. Et on ne va pas couper aucun coin rond, on ne va pas rien court-circuiter. Donc là, on prend le temps de bien faire les consultations en 2026 pour suivre les études. L'analyse d'impact va également s'effectuer là, à partir de cette année en 2027. Donc, pour nous, 2027-2028, c'est des années où on va aller chercher les autorisations, faire les études d'impact, pardon, et 2029, se préparer pour la construction qui commencera en 2029-2030 pour le segment 1 entre Montréal et Ottawa.
Ah, donc, on est encore loin des prises de décision puis de l'octroi des contrats qui vont faire les voies ferrées si on en construit des nouvelles ou qui vont faire les trains pour ce trajet-là?
Bien, l'engagement avec le marché va débuter cette année pour certains éléments. On est déjà en discussion avec l'industrie de l'acier, par exemple, parce qu'on sait qu'on a besoin d'une quantité importante d'acier, d'aluminium, de cuivre, de roches concassées. Donc, tout ça, on va commencer à faire du market sounding en bon français, donc aller consulter les industries pour être sûr qu'ils puissent être au rendez-vous et qu'il va y avoir des retombées également pour les industries canadiennes, les industries locales également, les entreprises locales. Oui. Donc, ça va débuter très tôt, effectivement, cette année et l'année prochaine aussi, pour s'assurer qu'on implique les industries, qu'on leur donne l'information pour qu'ils puissent se préparer d'avance à répondre aux appels d'offres qui vont suivre.
Donc, le projet est sérieux, mais il faudra y mettre le temps.
Absolument. Ça fait 40 ans qu'on parle d'un projet de train à grande vitesse au Canada. C'est la première fois qu'il est en phase de développement. C'est la première fois qu'on travaille aussi avec des entreprises privées pour le réaliser. C'est la première fois qu'il y a une équipe qui est complètement dédiée au projet, donc Alto. Donc oui, le projet est sur les voies. Il nous reste des étapes importantes dans les 2-3 prochaines années pour s'assurer que le projet a le vent dans le dos, qu'on fait les choses de la bonne manière, qu'on prend le temps de consulter. Et c'est pour ça que pour la première phase de consultation, en ce moment, on a une zone d'étude et pas encore un tracé. Avant que les décisions soient prises, on veut entendre les citoyens, on veut entendre les agriculteurs, on veut parler avec les MRC et ça, ce travail-là va se poursuivre cette année.
Bon, voilà, c'était Philippe Archambault. Il est vice-président des communications chez Alto. Chose certaine, c'est pas demain, la veille, qu'on va voir un train à haute vitesse là, circuler dans la région de Lanaudière. Le projet est toujours, passez-moi l'expression, embryonnaire, parce que là, on cherche un tracé. Là. Alors, c'est pas tout de suite qu'on va prendre le train, ça va de soi. Il est 16h21. Vous êtes bien branchés à CFNJ, c'est Lanaudière PM.
Lanaudière PM, tourisme.
L'Alliance de l'industrie touristique du Québec publie un apron destiné aux médias, également aux entreprises touristiques, pour mieux interpréter les prévisions météo et aussi influencer les touristes dans leur prise de décision. Et pas question cependant de se mêler du travail des météorologues et surtout pas des médias. François Morin en a discuté avec le PDG de l'Alliance, la PDG plutôt, Geneviève Quentin.
On avait commencé à faire cette offensive-là l'été dernier. On avait vraiment une préoccupation. Les gens entendent qu'il va pleuvoir, ils annulent leur vacances. On entend qu'il y a potentiellement pas de neige qui tombe, puis que les conditions d'enneigement sont pas suffisantes dans un hiver donné. On annule nos déplacements. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment sensibiliser les gens à faire une lecture qui est juste de la météo, c'est-à-dire une lecture qui est objective. Donc, en outillant de manière ludique, bien, on amène les citoyennes et citoyens à vraiment bien se positionner quand ils prennent une décision de ne pas faire leur activité. Donc, par exemple, on peut dire qu'une journée, il va pleuvoir ou il y aura de la pluie verglaçante. Mais est-ce que la pluie verglaçante est toute la journée? Est-ce que c'est des risques de pluie verglaçante? Est-ce que c'est pendant la nuit ou c'est vraiment du matin au soir? Bref, on essaie de manière ludique de démontrer là, à la population que de s'informer convenablement de la météo est bien important avant d'annuler un déplacement.
J'oserais pratiquement vous demander, est-ce qu'il y a un petit message qui est passé aux médias par le biais de cette campagne-là?
Oui, ben en fait, c'est clair que il y a aussi une responsabilité dans la manière dont on transmet l'information. Alors, les journalistes, les météorologues, qui par ailleurs nous ont aidés à monter cette campagne-là, là, je veux le mentionner, on a fait un travail vraiment étroit avec certains météorologues. C'est sûr que c'est une façon aussi de leur dire, écoutez, quand vous mentionnez qu'il va pleuvoir une journée donnée ou qu'il va neiger de manière intensive une journée donnée, ben c'est une responsabilité aussi avec ça. Donc, ça a des impacts sur l'industrie touristique, ça a des impacts sur les entreprises touristiques qui ont engagé des gens pour cette journée-là, qui ont engagé des dépenses, qui ont des assurances et de la machinerie, etc., à garder en place. Donc, c'est super important d'avoir ça dans le contexte quand on prend des décisions d'annuler. On le disait souvent, je pense que vous l'avez probablement vu, puis là, je donne un exemple plus concret, mais les no-shows dans les restaurants, le gouvernement s'est même positionné pour que maintenant le restaurateur ait droit d'avoir un montant de gelé. Puis si des personnes ne se présentent pas, il peut récupérer ce montant-là sur la carte de crédit. Mais tu sais, c'est toutes des choses qui n'ont pas d'allure parce que c'est des gens qui dépendent de la clientèle. Et si la clientèle n'est pas au rendez-vous, la dépense pour l'entreprise touristique est là quand même.
Dans une région comme Lanaudière, où Dieu sait, ça se passe beaucoup dehors, c'est primordial qu'il y ait des ajustements qui soient peut-être apportés.
Absolument. Tu sais, je pense que la meilleure façon de profiter de l'hiver, c'est d'aller jouer dehors. Puis pour aller jouer dehors, il faut être bien habillé. Fait que je dis, il n'y a pas de mauvaise température, il y a des mauvais vêtements dans la vie. Alors, il faut s'habiller chaudement, il faut être préparé. Il faut aussi peut-être des fois adapter notre consommation. T'sais, une journée qui fait super beau ou qui fait plus chaud, une journée hivernale où il fait plus chaud, on va peut-être rester dehors plus longtemps. Puis des journées où il fait un petit peu plus frais, ben on va faire des activités plus de cardio. On va aller dans des activités qui nécessitent d'avoir un peu plus chaud. On va rester moins longtemps dehors, on va prendre plus de pauses à l'intérieur. Mais on adapte notre façon de jouer dehors, de faire du tourisme, mais on n'annule pas surtout.
Je veux revenir sur le fait qu'il y a des médias et que des météorologues vous aient justement là appuyé ou conseillé dans cette campagne-là. Il faut quand même dire que les médias, on est tributaires un peu de l'information qu'on reçoit de la part des grands organismes de météo. On parle de Météo Média ou Environnement et Changement Climatique Canada. Est-ce qu'on s'attend à des changements de leur côté?
Ben en fait, nous, tu sais, l'idée, on n'est vraiment pas là pour tirer des tomates à personne. Tu sais, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser. Tu sais, c'est sûr qu'on sait aussi que vous n'avez pas nécessairement beaucoup de temps hein, pour passer les messages de météo. Mais c'est juste de s'assurer que, puis parce que quand on est un peu plus sensibilisé puis qu'on commence à décortiquer, par exemple, sur un site de météo heure par heure, ben on voit que finalement la pluie qui était prévue ou qui a été mentionnée comme une journée de pluie, ben finalement cette pluie-là est de 3 à 4, puis c'est 20 % seulement, c'est pas 80 %. Donc, c'est vraiment plus dans ce qu'on véhicule, le message qu'on véhicule, qu'on souhaite sensibiliser les gens qui vont faire la météo ou qui vont la présenter. Mais on n'est vraiment pas là pour juger, bien au contraire. C'est juste qu'on mentionne par cette campagne-là que ça a des impacts, tant de la manière dont c'est véhiculé que de la manière où nous, comme consommateurs, on va chercher l'information.
C'est sûr que quand on annonce 40 % de probabilité d'averse, on pourrait dire qu'il y a 60 % de probabilité de beau temps.
Voilà, c'est exactement ça. Puis, tu sais, vous avez un exemple qui est extrêmement bon parce qu'on l'avait fait dans notre campagne cet été, cet exemple-là. On avait dit, la campagne disait, c'était une campagne ludique là, où les enfants venaient faire la météo, puis ils disaient, ben, tu sais, 40 % de c'est aussi 60 % de beau temps. Donc, c'est ça. C'est vraiment essayer de rendre le message plus positif. Puis ça, on n'est pas dans des situations extrêmes. On n'est pas en train de dire qu'il faut que les gens soient, tu sais, fassent pas attention. Mais il faut juste bien apprendre à lire, à faire une bonne lecture de la météo. Puis je le rappelle, ça a des impacts sur l'industrie touristique. Tu sais, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Tu décides de pas aller au restaurant, ça a un impact. Tu décides de pas aller à ton hôtel, ça a un impact. Tu décides de pas faire ton activité, ça a un impact. Ça a un impact financier, ça a un impact sur les ressources humaines, ça a un impact sur les assurances, ça a un impact sur les infrastructures. Donc, il faut juste s'assurer de, un, si on décide de pas y aller, on avise, parce que ça, c'est primordial. Et si on n'y va pas pour des raisons X, ben, il faut juste avoir en tête qu'il faut pas que ça soit seulement parce qu'on a l'impression que la météo sera pas bonne.
Je trouve ça un petit peu curieux. En tout cas, c'était Geneviève Quentin. Elle est présidente, directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Alors, on veut avoir une météo plus positive, des bulletins de météo plus positifs. Donc, on pourrait peut-être ici faire deux bulletins de météo, c'est-à-dire un bulletin de météo qui s'adresse aux locaux, aux gens de la place, de la Naudière. On prévoit du temps gris tout le week-end, ça va être poche, il va pleuvoir toute la fin de semaine. Et pour les touristes, ça va être merveilleux, plein soleil tout le week-end. J'exagère un peu, là, mais je trouve ça un peu curieux. Bon, voilà, il est 16h29.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine pour Charles de Gaulle, un peu dense entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et Henri Bourassa, mais ça roule quand même assez bien. La traversée facile vers la rive nord, Repentigny-Carantais, ça se passe bien. La 341, montée de l'Épiphanie, le passablement dense entre la 40 et la rivière L'Assomption, pont Le Gardeur, ça va bien l'approche autant par Sherbrooke que Notre-Dame, traversée facile vers la rive nord. 25 nord, ouais, à peine un petit peu nombreux, jonction de la 440. Sinon, on traverse aisément vers l'île Saint-Jean et Terrebonne. Du côté de Mascouche, ça va bien, 25 Nord. Pont Sophie-Masson, facile en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction ouest. Un peu plus nombreux à l'approche de la montée des pionniers pour la 40. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Le Festival Saint-Combe-en-Glace se poursuit et ça promet pour un week-end spectaculaire. Vendredi 6 février de 18h, viens danser durant la Disco des Neiges à la patinoire du Centre de loisirs Marcel Thériault. Samedi 7 février, rendez-vous au Parc de l'Harmonie. Spectacle de Jeanne Héry à 12h30, atelier d'initiation à la sculpture sur glace de 13h à 16h, puis Martin Levac en spectacle dès 14h30. À 16h, ne manque pas la grande soirée Feu et glace, concours de sculpture, DJ canot volant et feu d'artifice. Et dimanche 8 février, déjeuner, activité familiale et spectacle de Daniel Alejandro à 13h. Saint-Combe, c'est là que ça se passe. CFNJ sera sur place.
246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
La Semaine nationale de la prévention du suicide se déroule jusqu'au 7 février. Cette année, le thème régional « Ensemble, tissons l'espoir » circulera dans tout Lanaudière. Tu es inquiet pour un proche ou tu penses toi-même au suicide? Joins en tout temps un intervenant du Centre de prévention du suicide de Lanaudière au 1-866-APPEL. 1-866-277-3553.
Les matchs du Tricolore, c'est à l'échappée que ça se passe. Chaque soir de match, choisis ton joueur favori et s'il marque un but, tu mérites un shot gratuit. Lors d'un match en semaine, on prolonge notre 4 à 7 jusqu'à 20 heures. Les jeudis, c'est la soirée hockey avec DJ, tirage d'un chandail du CH présenté par la BAT et pique assiette gourmand. Rate pas ça! Réservation fortement suggérée au 450-394-1658.
L'actualité de ce mardi 3 février en manchette. Marois Risky est en paix avec elle-même. Le programme Expérience Québec, toujours d'actualité. Et passage du TGV sur des terres agricoles qui rappelle un mauvais rêve. Et tout d'abord, Pierre Jubinville, le retour de Marois Risky à l'Assemblée nationale là, qui a retenu l'attention aujourd'hui.
Ouais, la députée de Saint-Laurent, députée indépendante, ne regrette pas les événements qui ont mené à l'éclatement du Parti libéral. Elle était de retour pour la première fois à l'Assemblée nationale. Elle estime avoir agi avec intégrité. Louis Lacroix.
En congédiant Geneviève Hinze l'automne dernier, Marois Risky estime n'avoir fait que son devoir.
J'ai dû poser des gestes. Ces gestes-là, j'étais forcée de les poser.
Ce geste a causé l'éclatement du Parti libéral et la démission de son chef Pablo Rodriguez. Mais la députée de Saint-Laurent ne regrette rien.
Je suis en paix avec moi-même et tous les gestes que j'ai posés.
Elle se retrouve maintenant à devoir défendre ses décisions devant les tribunaux.
Je suis toujours sur le coup d'une poursuite baillon en diffamation pour un demi-million de dollars. Donc, je vais correct.
Mais il y a un prix à payer.
Ça a été, pour ma famille, très difficile.
Pour l'heure, Marois Risky devra siéger à titre d'indépendante le temps que le parti statue sur son sort.
Moi, j'ai jamais souhaité d'être exclue. Ça sera la prérogative du prochain chef de décider.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle, Québec.
On en parle déjà depuis une bonne semaine, Pierre, l'abandon de ce programme Expérience Québec qui suscite encore des réactions et même une menace de poursuite.
Oui, Christine Fréchette se dit sensible à la situation des immigrants, mais il n'est pas question de revenir au PEC. Elle admet évidemment être touchée par les histoires de parents, d'enfants et de familles qui avaient envisagé de postuler au PEC, mais elle veut donc présenter un plan d'action humanitaire, mais dans le cadre du nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés.
J'ai proposé que l'on accélère, sous ma gouverne à nouveau, là, accélère considérablement les invitations qui seraient faites via le PSTQ, qui est le programme vers lequel on oriente personnes immigrantes qui envisageaient postuler au PEC, de telle sorte qu'on puisse réduire la période d'attente. Et je demanderai également que l'on renouvelle les permis temporaires.
Et des procédures juridiques sont entreprises contre le gouvernement caquiste dans ce dossier. Un recours collectif est envisagé, nous explique Maître Gérard Samet, un avocat spécialisé en recours collectif, justement.
La règle du jeu a été changée en cours de partie et nous voulons aller dans ce qu'on appelle une procédure déclaratoire pour faire dire que le gouvernement a commis une faute qui a créé un préjudice aux gens que nous représentons. Donc le recours collectif, ce sera peut-être plus tard, mais pour l'instant, notre propos, c'est de faire constater la faute.
Maître Samet dit représenter près de 500 immigrants orphelins du PEC.
Il y a Bernard Drainville qui s'en prend aux paramédics.
Oui, les paramédics ont manifesté aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Ils ont renversé une ambulance, et ce qui n'a pas fait l'affaire de M. Drainville. On l'écoute.
Je trouve ça inacceptable. Je pense que c'est le genre de syndicalisme dont les gens sont écœurés et que je vais continuer à dénoncer haut et fort. C'est un bien public, une ambulance. Alors, de détruire un bien public pour manifester pour ses conditions de travail, honnêtement, ça dépasse les limites.
Bon, justement, en parlant de syndicats, les syndicats veulent qu'on les laisse tranquilles.
Ouais, les organisations syndicales, malgré tous ces gestes, affirment que le gouvernement n'a plus la légitimité pour passer des grands projets de loi. Le CAQ doit donc faire marche arrière dans plusieurs dossiers. On écoute Thomas Mercier.
Le gouvernement Legault ne peut plus imposer de projet de loi qui divise la société québécoise, selon la présidente de la FAE, Mélanie Hubert.
La bataille de Rocky de l'automne, là, qui allait en découdre puis que les gens allaient voir... Les gens ont été clairs et ont parlé, ils suivent pas.
Selon le vice-président de la CSN, François Henault, la CAQ fait preuve d'arrogance dans ses dossiers.
Certains ministres ont fait un projet de loi, puis voici, on avance, puis on n'écoute pas personne.
Neuf syndicats joignent donc leur voix pour demander au gouvernement de prendre une pause dans ce qu'ils qualifient comme une offensive législative.
Les projets de loi 1, 3 et 9, on pense que le gouvernement devrait retirer ces projets de loi-là, les laisser mourir au feuilleton.
Pascal Côté, vice-président de la CSQ, conseille plutôt à la CAQ de se concentrer sur sa course à la chefferie et sur la campagne électorale à venir.
Ils nous les amèneront en campagne électorale et on se prononcera au début d'octobre dans les élections.
Thomas Mercier pour Cogeco Nouvelles.
Bon, maintenant, Pierre, le passage du futur TGV sur des terres agricoles dans la Naudière inquiète.
Oui, ce passage a fait l'objet de consultations aujourd'hui à Terrebonne. On a présenté les grandes lignes du projet dans le cadre d'une journée porte ouverte. Le projet est encore loin, cependant, d'être définitif. Selon le vice-président des communications d'Alto, Philippe Archambault, ce dernier comprend les craintes d'une répétition du fiasco des années 70 lors de l'implantation de l'aéroport de Mirabel.
Absolument, on est très sensible à ce défi-là. Et notre objectif principal en 2026, c'est de faire donc nos consultations et d'avancer aussi toutes les analyses, les études sur le terrain pour délimiter pour trouver le tracé qui va avoir le moindre d'impact. Pour ça, on va essayer autant que possible de suivre des infrastructures déjà existantes, par exemple des voies ferrées ou des autoroutes. On va également essayer de suivre autant que possible les délimitations existantes des lots.
Yann Lafrenière ne veut pas d'un registre des délinquants sexuels.
Oui, un dossier délicat quand même. Et la fin de semaine dernière, il faut rappeler qu'Éric Duhaime a signalé sa volonté d'adopter justement un registre public des délinquants sexuels qui comprendrait leur lieu de résidence. Le ministre Lafrenière a déposé un projet de loi pour créer ce fameux registre, mais l'idée des conservateurs ne le convainc pas.
Pensez-y un instant, si on met l'adresse de ces gens-là sur un registre public, à quoi bon espérer de les ramener dans la société? On vient les cibler. Alors, c'est pas ma vision, mais encore là, je suis là aujourd'hui pour entendre les gens.
Ça me rappelle des gens qui voulaient à un certain moment, là, qu'à une certaine époque, là, qu'on installe là, les noms des délinquants sexuels du quartier là, sur les poteaux et leurs photos, tout ça. Là.
Sur les poteaux.
Je pense qu'on exagère, on pousse le bouchon un petit peu loin. Là.
Un petit peu.
Une entente hors cours dans une cause de profilage racial à Terrebonne.
Oui, la Ville et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ont signé cette entente qui concerne des événements à l'origine des plaintes pour profilage racial déposées par 4 personnes noires. Signée à la fin 2025, cette entente, sans admission de responsabilité, met un terme à 4 procédures judiciaires qui concernaient différentes interceptions routières dont les personnes plaignantes ont fait l'objet alors qu'elles étaient au volant de leur véhicule. La Ville s'engage à verser des montants aux personnes plaignantes à titre de dédommagement.
Et on termine sur une très triste note. Le printemps n'arrivera pas en février, Pierre.
Non, Claude, c'est un bulletin alternatif que je vais vous présenter.
Ouais, on parlait de météo touristique alternative tantôt, là, mais non, il n'y aura pas de printemps, semble-t-il, au mois
non,
de février.
On n'a pas fini de grelotter. Le froid revient à la charge au cours des prochains jours. Les températures, nous dit Pierre Corbin d'Hydrométéo, seront nettement sous les normales.
Donc, pour aujourd'hui, jusqu'au 11-12 février, les températures seront
près ou en dessous des normales de saison. Un hiver typique ou légèrement plus froid que la normale jusqu'à maintenant pour le mois de février. Par la suite, du 12 au 18, les températures pourraient grimper un petit peu. On devrait rester près de zéro ou en bas de zéro pendant cette période-là.
Je suis découragé. Je suis tanné de l'hiver.
Il n'y a pas que les iguanes qui tombent des arbres à Cuba. Non. Il y a fait zéro aujourd'hui.
Eh ouais, à Cuba, à Cuba, c'est incroyable quand même. Mais là, c'est ça. On parle pas de réchauffement climatique, mais de refroidissement. Non. Il y a quelque chose qui se passe là. Quelqu'un qui a joué avec le thermostat.
Donald, probablement.
Ah, ça doit être ça. Merci, Pierre.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. Lanaudière PM. Affaires.
Il est 16h41, les organismes de développement économique de Lanaudière qui déplorent l'incertitude qui mine le moral des travailleurs étrangers temporaires qui comptent obtenir un statut de résident permanent. On en parle beaucoup depuis plusieurs jours, ça occasionne beaucoup de problèmes et le volte-face des gouvernements provincial et fédéral agace aussi les patrons d'entreprises. Et là, j'en parlais hier, je parlais des propriétaires de terres agricoles dans la région de Lanaudière qui comptent d'ailleurs sur ces travailleurs temporaires. Et c'est un mal, mais tout un mal de tête là, pour ces gens-là aujourd'hui. Un entretien entre François Morin et le directeur du développement économique de la MRC de Joliette, Nicolas Framery.
Nicolas Framery, on parle beaucoup d'immigration par les temps qui courent, des problèmes engendrés notamment par le retrait du programme Expérience Québec, remplacement par un autre programme dont le ministre a fait mention, a donné les grandes lignes à la fin de la semaine dernière, en relançant le fédéral, lui demandant de ne pas abolir les permis de travail aux salariés temporaires, aux immigrants temporaires. De votre côté, là, quelle lecture on fait de la situation? J'imagine qu'il y a de l'incertitude dans la région.
Ben, en fait, effectivement, puis c'est pas un dossier qui date des dernières semaines. Là, je vous dirais que depuis maintenant plusieurs mois, c'est un sujet qui, au même titre que tout ce qui se passait au sud de la frontière avec les tarifs douaniers, a amené beaucoup d'incertitudes chez nos entreprises. Sur la base des informations que nous, on a pu recueillir auprès de certains de nos clients, je vous dirais même que la question des travailleurs étrangers a porté une insécurité même plus grande que les tarifs douaniers. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, on a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre qui, des fois, dans certains secteurs, est vraiment très présent. Et que pour plusieurs entreprises, d'aller chercher des travailleurs immigrants qualifiés était tout simplement la meilleure des manières, puis la plus simple, pour être en mesure de répondre aux besoins de leur entreprise et de croissance. Souvent, faut savoir aussi que c'est des travailleurs qui sont arrivés avec leur famille, et donc la situation actuelle peut amener beaucoup d'incertitudes pour nos entreprises, mais également les travailleurs qui sont impactés, parce que de ce qu'on comprend et du peu d'informations qu'on a, là, parce qu'il faut savoir que on en parle dans les médias, mais il reste encore des précisions à venir, il pourrait y avoir des travailleurs qui se qualifieraient ou seraient reconnus dans le nouveau programme, là, le fameux PSTQ, mais que leurs conjoints ou conjointes qui, eux, sont arrivés avec eux dans les dernières années, ne se qualifieraient pas. Et fait que là, ça met vraiment, je vous dirais, une incertitude actuellement, encore une fois, sur plusieurs entreprises, parce qu'on manque d'informations, puis on attend que ça s'en vienne. Puis même au niveau des travailleurs, là, je vous dirais que ce manque de prévisibilité-là amène des drames humains, là, forcément.
Pas plus tard qu'hier, le maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay, nous indiquait que des travailleurs étrangers temporaires ont déjà commencé à tourner le dos du Québec en raison justement du cafouillage en matière d'immigration. Est-ce que vous êtes d'avis, vous aussi, qu'il risque d'y avoir une perte de confiance?
C'est sûr que pour des gens qui sont chez nous, puis je vous dirais qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont arrivés ici en voyant l'opportunité. Fait, oui, ils arrivaient avec un permis de travail temporaire, mais ils étaient beaucoup des fois dans une perspective de tout simplement faire leur vie au Québec. Fait que je vous avouerai que pour certains de ces individus-là qui sont arrivés il y a un ou deux ans, qui bien souvent ont fait des choix de vie, de revendre leur maison ou etc. dans un but de s'établir. Ça amène, puis c'est tout à fait comprenable, c'est humain, là, vraiment beaucoup d'incertitude, de sensibilité, puis sans dire que ça devient des drames pour certaines personnes, c'est de se revirer rapidement. Là. Donc oui, ça, tout à fait, là, ça peut amener un enjeu de réputation. Là.
Qu'est-ce que des organisations comme la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette peut faire pour pallier la situation?
Ben, je vous dirais que nous, à notre niveau, au niveau de la MRC de Joliette, puis c'est la même chose pour les autres services de développement économique là dans la région, on est avant tout, on se veut un facilitateur. Fait que notre objectif, c'est d'être au courant de ce qui se passe sur le terrain. Fait que moi, au niveau de mon équipe de conseillers, on essaye vraiment d'être à la recherche, de comprendre, d'essayer d'avoir une idée je vous dirais complète des entreprises qui peuvent être impactées et après ça, ben, d'essayer de les connecter rapidement aux bonnes sources d'informations. Au niveau de nos organismes locaux, on travaille aussi avec la Nodière économique sur lequel on a un service là avec un expert en immigration. On est aussi en lien avec le MIFI. Fait que, bref, notre travail, c'est d'arriver à avoir une idée claire, une photographie claire de ce qui se passe sur notre territoire et après ça, d'essayer de les connecter aux bonnes ressources. Cela dit, la limite de ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut pas aller plus loin que ce que le ministère offre, etc. Là, fait que c'est beaucoup ce rôle-là de faire remonter de l'information, d'être en lien avec notre politique pour arriver là à ce que on ait une bonne idée de ce que ça peut avoir comme impact sur le territoire.
En terminant, parce que justement, vous êtes dépendant des décisions politiques et en attendant, bon, on continue à vivre d'incertitudes.
En fait, oui, je vous dirais qu'actuellement, au niveau de nos entreprises, puis on peut pas dresser, puis c'est un peu ça le constat qu'on fait là régulièrement, on peut pas généraliser une situation d'une entreprise à l'autre. Là, c'est vraiment des cas particuliers, puis c'est ce qui rend ça vraiment délicat. Mais je vous dirais que à la fois la situation plus macroéconomique et politique internationale, mais également là cet enjeu que l'on vit, je vous dirais de manière plus locale. Amène encore une fois une couche d'incertitude auprès de nos entreprises. Puis c'est vraiment cette incertitude-là là, qui vient mettre sur pause des projets d'investissement, qui vient amener nos entrepreneurs aussi à avoir, je vous dirais, tout un tas d'enjeux autres que ceux pour quoi ils sont là, avec lesquels ils doivent composer. Fait qu'effectivement, là, on sent qu'on a, chez certaines de nos entreprises, là, des chefs d'entreprise qui sont tout simplement fatigués là, de l'ensemble de ces situations-là.
Ben, c'était Nicolas Framery, le directeur du développement économique de la MRC de Joliette. Bien entendu, on n'a pas fini de parler de ce fameux PEC. De nombreuses entreprises là qui ont les nerfs à bout carrément là, avec ce programme pour les travailleurs temporaires et travailleurs étrangers temporaires. Il est 16h48. Dans un instant, Jacques Plante.
Le Festival Saint-Combe-en-Glace se poursuit et ça promet pour un week-end spectaculaire. Vendredi 6 février de 18h, viens danser durant la Disco des Neiges à la patinoire du Centre de loisirs Marcel Thériault. Samedi 7 février, rendez-vous au Parc de l'Harmonie. Spectacle de Jeanne Héry à 12h30, atelier d'initiation à la sculpture sur glace de 13h à 16h, puis Martin Levac en spectacle de 14h30. À 16h, ne manque pas la grande soirée Feu et Glace, concours de sculpture, DJ canot volant et feu d'artifice. Et dimanche 8 février, déjeuner, activité familiale et spectacle de Daniel Alejandro à 13h. Saint-Combe, c'est là que ça se passe. CFNJ sera sur place.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
Vieillir chez soi, c'est précieux. Chez Aide à domicile d'Autré, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autré. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autré au 450-404-2219, poste 2.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On
Direxeler Dojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bonjour Jacques.
Salut Claude, je vous écoutais tantôt et j'ai dit ça en boutade à notre collègue Pierre. On peut organiser Cuba, là, zéro. Là.
Il a fait zéro à Cuba.
Encore deux jours, puis on va organiser une petite expédition pêche à glace.
Oui.
C'est incroyable quand même. On regarde la neige en Floride.
Ouais.
Spécial, ça.
Oui, tout à fait. Puis le printemps arrivera pas tout de suite, semble-t-il. Bon, ouais. Journée de rentrée parlementaire à Québec. Retour bien attendu aussi. Là, faut le mentionner, de Marois Risky.
Oui, on l'attendait, évidemment. C'est une rentrée assez spéciale. D'abord, comme tu le mentionnes, Mme Risky qui faisait un retour parce qu'on reprenait la session comme telle. Elle va siéger comme indépendante.
Oui, ils sont 10 députés indépendants là, maintenant. Là.
À l'interne, là, as-tu vu comment ils appellent les gens qui sont dans le salon rouge en arrière comme ça? C'est surnommé le poulailler.
Le poulailler.
Le poulailler.
Les députés indépendants.
Oui, c'est surnommé cette aire-là le poulailler. Je me disais, c'est peut-être les dindes qui sont en avant puis les poulets sont en arrière.
Ouais.
En fait. Mais c'est un peu spécial. D'abord, le retour de Mme Marois, puis on connaît toute la séquence, là, toute la poutine qui
a brassé au Parti libéral du Québec. On en parle depuis hier. Ça a été une grosse journée, justement, au sujet de Marois Risky, et elle s'est expliquée textuellement ce qu'on a pu voir hier. Et Geneviève Hinds qui lui a répondu également en démentant ce qu'avait dit Marois Risky.
Ben oui, il y a une poursuite de 500 000 là-dessus. On va voir où ça va aller. Mais quand on voit le libellé de ce qui a été donné là-dessus, là, un petit commentaire en passant, je lisais ça et je donne beaucoup plus de crédibilité à Marois qu'à l'autre, parce que ce qu'elle voulait faire finalement, c'est par rapport au règlement, à la régie, à l'Assemblée nationale.
Oui, tout à fait. Je considère Marois Risky comme étant une lanceuse d'alerte.
Exactement. Elle a fait sa job, quant à moi. Ça, je maintiens ça. Et l'autre, ce qu'elle gardait, c'est d'être capable de tricher un petit peu sur le bord des lignes. Ce que t'as pas le droit de faire, mais t'as le droit de pas te faire pogner.
C'est ce qu'on appelle jouer avec la loi. Là.
Ben, tu sais, quand Marois a dit le fling-flang, là.
Oui, c'est ça.
Bon, c'est ça. Parce que on sait, c'est plate ce que je vais dire, mais on sait que les libéraux sont habitués à être le fling-flang. Rappelez-vous le grand Lovin, hein?
Oui, mais depuis...
Tu sais, quand il faut calculer des montants, là, puis que tu as le droit, il y a une loi là-dessus, loi électorale, en tout cas.
Mais ça, le fling-flang, tant au fédéral qu'au provincial.
Oui, c'est dans tous les partis.
C'est ça.
Comme on dit, tu n'as pas le droit, par certains règlements, mais tu n'as pas le droit de te faire pogner.
Ce qui donne, en fait, ce qui me laisse à penser que lorsqu'on se fait élire chef d'un parti politique, comme ça a été le cas de Pablo Rodriguez, l'important, c'est de tout de suite se présenter dans une partielle à quelque part où qu'un député cède son siège.
Jean, tu t'appelles, hein, je te l'avais dit, là, il jouait une drôle de carte, parce que pour moi, il faut que tu fasses ça, sinon ça va être la foutaise totale, et c'est ce qui est arrivé. Je reviens à l'entrée à l'Assemblée nationale aujourd'hui, spéciale. Ça fait quand même quelques années que je suis le monde de la politique, là, autant à Ottawa que Québec. Mm-hmm. Et de mémoire de Jacques Plante, là, je me rappelle pas une situation comme celle-là. Un premier ministre qui est en déclin, là, qui
Mais il est plus là. Il est plus là comme premier ministre. Il a démissionné.
Il est là comme par intérim, si tu veux.
Il est là en attendant un nouveau chef.
Il garde ses fesses chauffées sur le fauteuil, parce que le prochain, on va le savoir, ça va arriver au mois d'avril. Hein? Tu regardes le parti d'opposition officielle en face, même chose. C'est un chef par intérim qui est là, M. Tanguay.
Et qui fait une bonne job, toujours.
Qui fait une excellente job.
Oui.
Mais là aussi, on n'a pas de chef.
On n'a pas de chef. C'est pas un secret c'est un secret de polichinelle que ce sera Charles Milliard, sans aucun doute.
M. Roy n'a pas eu l'air à comprendre.
Il s'est fait tasser, mais il continue, il persiste.
Il continue, puis c'est comme s'il était sûr qu'il va le payer.
Il n'a toujours pas payé son 35 000 piastres, lui, là.
Oui, puis ce qu'on lui demande, c'est d'abord et avant tout de régler la dette de 18 000 de la première course. Même de se lancer dans le 30 000.
Ouais.
Et c'est drôle parce qu'il n'a pas compris encore, parce que lui, il a dit, s'il était chef élu, il réhabiliterait Mme Minetsky au sein du caucus du Parti libéral.
Mais je pense que ce sera le cas aussi pour Charles Millard.
Ben oui, on sait que ça ne représente pas, mais de revenir au parti, ce serait quand même de bonne alloi.
Ou juste pour bien terminer sa carrière politique.
Ça va pas être facile de ce qui va se passer là, d'ici à ce qu'il y ait un nouveau chef à la CAQ et un nouveau premier ou une nouvelle première ministre, parce que les syndicats sont sortis aujourd'hui en disant sais, les, il y a des projets de loi qui sont là, la Constitution du Québec, gouvernance syndicale et le renforcement de la laïcité. Disent le gouvernement a pu
la légitimité.
Oui, comme ça, ouais. Parce que quand on regarde les sondages, et actuellement, il y a une course à la CAQ. Et si tu as suivi un peu les deux lancements, Mme Fréchette, M. Drainville, je sais pas s'ils sont tout à fait en accord avec ces projets de loi-là comme tels.
Et les sondages, d'ailleurs, on a parlé de sondages hier avec Pierre Paquette.
Depuis les derniers, là,
je pense qu'il faut pas regarder les sondages et se fier là-dessus parce que c'est tout dépend de qui sera le chef de tel parti ou de tel parti. Non. Puis là, il y a une mise à jour de QC125 aujourd'hui. La mise à jour est considérée comme avec François Legault comme chef de la CAQ et Marc Tanguay comme chef du Parti libéral. C'est à peu près n'importe quoi. Ouais, là, c'est présentant un sondage. Là.
Claude, c'est ridicule parce qu'on a fait un sondage au niveau de la population.
Oui, il est sorti vendredi, le dernier léger. Ouais. Là. Ouais.
On fait un sondage au niveau de la population. Il faut se rappeler là, que c'est pas la population qui va voter le chef de la CAQ.
Non, ce sont
c'est
les
à l'intérieur
membres.
Du parti.
Ouais, les 11 000 quelques membres.
Alors, c'est pour moi, ce sondage-là, quand il est sorti, Mme Fréchette avait déjà lancé sa campagne à la chefferie. Et là, M. Drainville lançait dimanche. Le sondage est sorti 24 ou 48 heures avant. Mm-hmm. Alors, moi, je trouve que c'est une jambette politique qu'on lui a faite.
Oui, parce qu'habituellement, un sondage pas publié le vendredi, c'est publié en début de semaine.
En début de semaine, parce que ça fait de la trail, comme on dit.
Oui, pendant la semaine. Et le week-end, ça tombe dans l'oubli, là, un sondage. Alors, on a voulu probablement, chez Léger, faire un coup de
jambette. Une petite jambette à Bernard Drainville.
Mais ça donne quand même une idée sur le fait que la population est peut-être plus derrière Christine Fréchette, que Christine Fréchette, on la connaît pas, la population la connaît pas vraiment.
Mais ça, Claude, je ne conteste absolument pas ça, ce que les gens peuvent penser.
Oui.
La seule chose que je trouve, et là, c'est Bernard Drainville, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, je trouve que c'est cochon.
Mais ça peut pas avoir une influence auprès des membres de la coalition Avenir Québec, à savoir que, bon, si Christine Fréchette est plus populaire auprès de la population, ce serait bien mieux de l'élire comme chef plutôt que Bernard Drainville.
Je sais pas, ça peut faire pencher la balance un peu. Il regarde juste les appuis qu'elle a.
Oui.
Hein? Déjà, on voit que ça se dessine.
Une bonne vingtaine, là.
Oui, exactement.
Au sein même de son parti.
C'est exactement. Donc,
Drainville n'a pas encore atteint le chiffre magique de 15.
Il n'y a pas le 15 encore.
Pas
mais,
encore.
Il a dit qu'il va aller le chercher. Je crois aussi là, qu'il
va. C'est possible. Il y a tellement de députés à la CAQ.
Mais on verra bien si ça va être le jour de la marmotte. En chefferie pour Bernard Drainville, rappelez-vous.
L'échec avec le Parti québécois.
Il s'était présenté, puis avant même de que le vote arrive, il avait décidé d'arrêter et de se ranger du côté de Pierre-Carl Péladeau.
Moi, j'ai pas l'impression qu'il va se ranger du côté de Christine Fréchette. Moi, j'ai l'impression que Drainville va aller jusqu'au bout.
Peut-être. Moi, c'est drôle, je pense qu'il va...
Moi, je te dis que... Et puis, si il mord la poussière, il va se joindre à l'équipe du Parti conservateur d'Éric Duhaime.
Tu penses?
Je te lance ça comme
on a
ça.
Droit. Non, mais
c'est parce que
on a droit de spéculer.
Les idées de Drainville et de Duhaime se rapprochent pas mal ces temps-ci.
C'est ça. Mais on patine beaucoup dans une chefferie.
Non, c'est sûr.
Un coup d'endo au pouvoir.
Ça change souvent.
Mais des fois, c'est ça. Hein?
Merci, Jacques.
Salut.
Il est 16h58. C'est le moment de remercier nos collègues qui ont participé à l'émission aujourd'hui. François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Jacques Plante que vous venez d'entendre. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite une excellente soirée et soyez au rendez-vous du 5 à 7 trad. Oui, c'est de l'autre côté de l'actualité de 17h. Nous, on sera là demain, 16h, pour une autre édition de L'Anneau d'hier PM. Bonne soirée. À demain.